Alexandre Solzhenitsyn revient à la une de l'actualité, aussi bien en Union soviétique qu'en France. Aussi, Georges Bortoli, avec ce qui se passera lundi dans l'hebdomadaire L'Express.
Oui, tous les grands hebdomadaires parisiens vont consacrer un certain nombre de pages à Solzhenitsyn demain lundi. Et L'Express publiera un certain nombre de pages, les premières d'ailleurs, de l'archipel Goulag. C'est un nouveau Solzhenitsyn. Et quel Solzhenitsyn ? C'est évidemment une bombe dans l'édition mondiale, et en particulier en France, puisque c'est la France qui a été choisi comme premier théâtre de cette parution.
1974, le choc de l'archipel du Goulag.
Je me rappelle du fait que l'archipel du Goulag avait été l'un des événements majeurs de l'année et que tout de suite s'était instauré un débat assez violent d'ailleurs. Soit on était un partisan convaincu du communisme et c'était irrecevable ce témoignage, ou on était quelqu'un d'ouvert aux idées, ou on était de gauche mais sans être communiste. Et si j'essaie de me rappeler les impressions que j'ai eues à l'époque, c'est qu'à la fois j'étais mal à l'aise parce qu'il me semblait que tout ça était très troublant et qu'il allait à l'encontre des idées du parti le plus puissant de France à l'époque. Et puis en même temps, c'était le témoignage d'un homme qui avait échappé aux trois grands fléaux du siècle, c'est-à-dire la guerre, le cancer et le goulag.
Alors, l'archipel du goulag, Claude Durand, est un livre écrit dans la clandestinité qui dénonce la nature totalitaire du régime soviétique. Comme l'explique Bernard Pivot dans cette archive, c'est un livre qui a suscité un violent débat au moment de sa publication. Pouvez-vous nous expliquer comment cette œuvre confidentielle est arrivée jusqu'à vous ?
Ça s'est passé non pas en 1974 pour moi, mais en 1973, donc un an avant. Je m'étais occupé jusque-là de la traduction du premier volume de ce qu'on appelait la grande fresque historique sur la Révolution de 17, qu'on appelle la Roue Rouge. Et donc le premier volume, août 14, je l'ai publié au Seuil, je l'ai suivi. Et donc j'étais déjà en rapport avec l'œuvre de Solzhenitsyn, sans être en rapport avec lui. En revanche, j'étais en rapport avec l'avocat zurichois qui s'occupait de ses intérêts en Occident. Et j'ai été convoqué par cet avocat à Francfort, à la foire des éditeurs, où on m'a parlé d'un livre à venir de Solzhenitsyn, qui s'appellerait l'archipel du Goulag, et non pas l'archipel Goulag, comme dit Bortoli. Mais les gens n'étaient pas encore familiers avec l'expression. Et naturellement, je dis, bon, je vais recevoir le texte, parfait. Mais sitôt rentré à Paris, je me suis jeté sur un atlas pour essayer de trouver où était géographiquement cet archipel, si c'était dans le Kamtchatka ou dans la mer Baltique, etc. Et naturellement, je n'ai pas trouvé. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas que c'était un sigle qui désignait précisément les camps en Union soviétique. Et donc, je me suis fait expliquer ensuite. On a mis en traduction le livre parce que l'ordre était de commencer les traductions en attendant que la consigne nous soit donnée par l'auteur via son avocat de le publier. Et puis les événements se sont précipités. Car en URSS, il existait plusieurs copies de l'archipel du Goulag. Vous savez qu'à l'époque, on appelait samizdat les exemplaires dactylographiés ou filmés, même sur microfilm, des manuscrits. Et une des personnes qui possédait l'intégralité du manuscrit a été retrouvée pendue au mois de décembre 1973. Pendue, alors, est-ce qu'elle était suicidée ? Est-ce qu'elle était pendue de manière plus active, je dirais, par le KGB à l'époque ? En tous les cas, le manuscrit a été confisqué et donc est tombé entre les mains du KGB. À ce moment-là, Solzhenitsyn a été l'objet d'un chantage au plus haut sommet de l'État soviétique, pour lui faire comprendre que si jamais il publiait ça, ça irait très mal pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, etc. Il a tenu bon. Et mon ami Nicolas Struve, qui était son éditeur à Paris, en exil, qui avait une petite maison qui s'appelait Imka Press, qui publiait toute l'œuvre en exil, a reçu l'ordre de publier donc l'édition russe de l'archipel du Goulag pour Noël 1973. À ce moment-là, nous avons annoncé que nous le publierions, nous, quand la traduction serait terminée, et ça serait le 1er mai 1974. Mais il y avait, vous voyez, ces 5 mois-là. Et ces 5 mois-là ont été mis à profit par les adversaires politiques de Solzhenitsyn, et notamment par le Parti communiste à l'époque, pour entamer une cabale en prélevant des extraits traduits du russe, puisque l'édition était disponible, de façon à discréditer le livre. Et naturellement, le public ne pouvait pas répondre, ni la presse dans son ensemble, puisqu'elle n'avait pas accès à la traduction française. Donc il y a eu une période de 4-5 mois très difficile, car naturellement, on prélevait, par exemple, l'histoire des Russes collaborateurs des nazis, par exemple, qui étaient envoyés dans des camps, ce qui était bon. Donc on disait, Solzhenitsyn défend les collabos, mais on voyait naturellement pas le reste. Voilà. Donc on prélevait 5 pages peut-être du tome 1 de l'archipel du Gulag et on disait voilà à quoi ça ressemble. Et donc il a fallu attendre la traduction intégrale pour que les gens s'aperçoivent que ce n'était pas du tout ça. C'était d'abord une investigation littéraire, c'était parce qu'on oublie que c'est toujours une œuvre d'écrivain, pas seulement de témoin, ni d'enquêteur, et qui rassemblait les témoignages de centaines d'anciens zec, c'est comme ça qu'on appelait les détenus, pour montrer ce qu'était l'étendue de la répression en Union soviétique à l'époque. Parce que le rapport Khrouchtchev, qui a été, après la mort de Staline, le révélateur, etc., lui ne parlait que des communistes tués dans les camps. Il ne parlait pas du peuple, il ne parlait pas des gens sans parti. Et on sait très bien que la répression ne s'est pas étendue simplement aux membres du Parti communiste, dissidents, aux vieux bolcheviques, etc. Donc c'était vraiment une grande révélation. Je crois que la mise en place du tome 1 au mois de début mai 1974 a été énorme, puisqu'on a dépassé 500 000 exemplaires de mise en place simplement du livre, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France. Donc ça montre un événement considérable du point de vue de l'édition pour un livre.
Du point de vue de l'histoire.
Ah oui, et du point de vue de l'histoire.
Bien évidemment.
Parce que toutes les... Par exemple, ce qu'on appelait après le mouvement des nouveaux philosophes, par exemple, est né de là. Hein, je veux dire, ils ont repris à leur compte ensuite toute cette analyse. Voilà, donc Solzhenitsyn, par voie de conséquence, donc, après cette publication à Noël, en l'édition russe, il a été expulsé, banni. Il n'a pas choisi, il a dit, comme on l'a souvent dit, il n'a pas choisi de quitter l'URSS. Il a été banni et déchu
de sa nationalité.
Ils l'ont expédié par avion à Cologne, où il a été accueilli par Heinrich Böll, autre prix Nobel de littérature. Il s'est installé ensuite en Suisse, à Zurich. Ironie d'histoire, puisque c'est à Zurich que Lénine avait été en exil. Et où on trouve beaucoup de traces de Lénine quand on va à Zurich. Mais Solzhenitsyn en a profité pour travailler sur Lénine, personnage de la Roue Rouge. Vous voyez. Et c'est donc à Zurich que je l'ai rencontré. C'est là qu'il a décidé de me confier la gestion de ses droits mondiaux et de sa représentation. Et ça dure depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. Quoi.